Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. On est aujourd'hui le jeudi 22 septembre 2022 et on en est donc à notre sixième leçon dans cette série d'enseignements sur la thématique « C'est par la foi ». Un vocable, un groupe nominal ou un titre qui est emprunté donc à une série de mentions qu'on en fait dans Hébreux au chapitre 11. Et aujourd'hui, on fait une petite série, on commence une petite série de quatre versets sur Abraham. Donc, c'est toujours dans Hébreux au chapitre 11 et le verset 8 pour aujourd'hui. On aura peut-être un ou deux autres versets à voir par la suite, dépendamment de comment le cours d'aujourd'hui se présente. Mais avant de débuter, on va prier, remettre ce temps entre les mains du Seigneur, lui demander qu'il nous inspire et qu'il nous dirige en toutes choses. Alors là où vous êtes, vous pouvez élever la voix avec moi dans ce moment de prière. Merci Seigneur encore une fois pour cette merveilleuse occasion que nous avons de plonger notre regard dans ta parole. Un moment Seigneur à travers lequel nous te demandons de nous parler, mais surtout de nous livrer ta pensée. Ton cœur, cette pensée que tu as préparée de toute éternité en vue de la journée d'aujourd'hui. Tu savais, Seigneur, ce que nous avions prévu pour cette journée. Tu savais les défis qu'on allait rencontrer. Tu savais aussi, Seigneur, notre état. Alors, au vu de tout cela, nous te demandons simplement de faire ta parfaite volonté, de nous donner parfaitement la parole que tu as préparée pour aujourd'hui. Et surtout, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, notre entendement, nos pensées à ta parole. En fait, Seigneur, que nos pensées te soient rendues captives, que rien ne vienne nous déranger. Pendant ce temps d'étude, qu'une grâce et une onction toute particulière de ta part nous soient accordées afin de bien saisir ton cœur, afin de bien saisir ce que tu as pour nous. Je te demande de bénir ma sœur, de bénir mon frère, que ta grâce leur soit accordé et en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Je lis pour vous donc le verset que nous étudions aujourd'hui dans Hébreux au chapitre 11 avec cette thématique « C'est par la foi ». Donc, Hébreux 11, le verset 8, un verset tout court, tout simple, qui nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Je répète le verset. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. » Alors aujourd'hui, c'est la première étape d'une série de quatre sur Abraham. C'est le personnage qui va revenir le plus souvent dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. L'auteur aux Hébreux va nous entretenir à quatre reprises sur Abraham, où va nous montrer la manifestation de sa foi sous quatre aspects particuliers. Et pour nous, à travers cette étude sur la foi, c'est l'occasion de voir qu'est-ce que je fais moi concernant ma propre foi, comment je l'affiche, comment je la manifeste, comment je l'entretiens aussi. Est-ce que la foi dont je fais preuve est celle qui devrait être? Je rappelle au tout début, on a vu que la foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi concernant « je vais recevoir des cadeaux de la part du Seigneur ». Ce n'est pas la foi concernant le fait que Dieu soit capable ou non de guérir. Ce n'est pas la foi concernant le fait que Dieu puisse pourvoir un nouvel emploi, une nouvelle maison, un fiancé ou une fiancée puisse donner des enfants ou non. Ce n'est pas de cette foi-là qu'on parle. On parle de la foi qui nous amène au salut. Donc, croire effectivement qu'il y a un jugement, comme on l'a vu hier à travers l'histoire de Noé et du déluge, donc croire qu'effectivement l'homme va être jugé pour son statut, son état de pécheur, mais que Dieu a offert une voie de salut à travers la mort et la résurrection de Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, et à travers la repentance de celui qui s'approche de Jésus. Donc, lorsqu'on parle d'Abraham dans nos exhortations des prochains jours et d'aujourd'hui, c'est toujours avec cette notion de la foi qui nous mène au salut. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Comme on l'a fait à travers les dernières journées, les dernières semaines, on va faire une petite introduction à la vie d'Abraham. J'ai bien dit cette fois-ci Abraham parce qu'au début de son existence, son prénom ne sera pas Abraham, comme on le connaît aujourd'hui, ou Abraham, prononcé plus à la française, mais son prénom tout d'abord était Abram, Abraham, donc sans le H et sans un double A dans le nom. Il était le 20e descendant d'Adam, à travers bien sûr la lignée de Seth. On se rappelle que Seth est l'enfant que Dieu a pourvu pour remplacer Abel, qui avait été assassiné par son frère Caïn. Donc 20e descendant d'Adam, Seth était le deuxième, Noé était le dixième, Sem était le onzième, Abraham est dans la 20e lignée, donc de cette famille initiée par Adam. À la demande de son père, qui s'appelle Térakh, qui veut dire station ou arrêt, pour ceux qui prennent des noms, Térakh, le papa d'Abraham, veut dire station ou arrêt, avec son épouse Saraï, elle aussi va changer de nom, au début elle s'appelle Saraï, avec I tréma, par la suite ça va changer pour Sarah, donc avec son épouse et son neveu Lot, ils vont partir de Ur en Chaldée. C'est où Ur en Chaldée? C'est dans le sud du territoire de Babylone. Aujourd'hui, si vous regardiez une carte bien contemporaine, ça serait donc le sud de l'Irak actuel. C'était un centre de culte à la lune. Donc Abraham, au départ, est un adorateur de la lune. Il va rencontrer Dieu. Dieu va se présenter à lui. D'Abraham va naître donc le peuple d'Israël. D'Abraham va venir bien des générations plus tard le Christ, Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. Mais à la base, Abraham va avoir une conversion. Donc du culte païen qui était le sien, culte envers la lune, il va devenir donc adorateur de l'Éternel. Au lieu d'aller jusqu'à Canaan, là où il devait aller, jusqu'en Judée contemporaine, il va s'arrêter à mi-chemin de son parcours dans la ville de Charan, en Mésopotamie. Donc la ville de Charan, en Mésopotamie. Et ça, c'est au sud-est de la Turquie actuelle. Donc il va partir de l'Irak, de Babylone, pour monter jusqu'en Mésopotamie. Et c'est donc dans le sud-est de la Turquie actuelle. À la mort de son père, Abraham va quitter alors définitivement le territoire de Charan, la ville de Charan, pour aller s'établir dans la ville ou dans le territoire où Dieu va le guider. Initialement appelé Abram, qui veut dire père élevé, son nom va être changé en l'Éternel, par l'Éternel, en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Donc tout d'abord, il est Abraham, qui veut dire père élevé, et il va devenir Abraham, père d'une multitude, et un prénom donc qui va être changé par Dieu, notamment à la naissance de son fils Isaac. Alors revenons donc à notre passage d'aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Par la foi, Abraham reçoit sa vocation. Vocation n'est pas un terme qui est utilisé fréquemment dans la parole de Dieu. En fait, l'expression française vocation est constituée de deux mots en grec, des mots qu'on a déjà utilisés, qu'on a déjà appris à travers nos leçons des 2 dernières années, mais en revenant quand même sur cette expression. Vocation, c'est donc le premier mot, kaléo, Kaléo, en grec bien entendu, kaléo, qui veut dire interpeller, nommer, attitrer, apostropher ou crier le nom. Donc dans kaléo, il y a une adresse qu'on fait à quelqu'un, mais de façon virulente, de façon expressive. Ce n'est pas un timide appel, c'est une vocation, c'est un appel, un kaléo, c'est une interpellation assez musclée que Dieu va faire. Ou le deuxième terme qui est utilisé, donc kaléo, exerchomai. Exerchomai, donc j'appelle pour ceux qui prennent des notes, Exerchomai. Je répète, exerchomai, Exerchomai. Et exerchomai veut dire quitter, expulser, disparaître, abandonner, déraciner. Donc ça veut dire de quitter un endroit, mais en se défaisant de tout point d'attache. Quand on parle de kaléo exercomai, on parle donc d'un appel vif, d'un appel violent dans le bon sens du terme, un appel qui n'est pas mitigé ou timide, et qui va exercer ou qui va amener celui qui reçoit l'appel et qui y répond, à faire une coupure drastique, nette, avec l'endroit qu'il fréquentait jusqu'à présent et là où il doit aller. En fait, l'appel divin, lorsqu'on regarde juste l'expression vocation en grec avec kaléo exerchomai, l'appel divin, on peut le cataloguer comme une chose radicale, tranchante, voire même dérangeante. Les êtres humains, et peut-être moi particulièrement, j'ai des routines. Nous avons des routines. On nous dit que l'être humain est un être d'habitude. On aime avoir un train-train qu'on applique. On aime utiliser le même trajet pour se rendre du point A au point B, même si c'est un trajet qu'on fait à tous les jours. Régulièrement, les gens vont adopter un trajet à particulier. Et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le plus court, le plus rapide, mais parfois c'est tout simplement parce que y a des espaces dans le trajet qu'on utilise qui nous sont plus agréables à la vue, moins dérangeants que d'autres passages. Donc, lorsqu'on parle de kaléo exercomai, on doit comprendre qu'effectivement, le fait d'être interpellé par Dieu pour se vouer à la vocation divine peut être quelque chose de dérangeant. Pour sûr, c'est quelque chose qui va venir marquer un point de non-retour avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Abraham savait que cela allait lui coûter, qu'il devait donc être certain de la dite vocation. On ne démarre pas sur le chemin avec Dieu pour abandonner par la suite. La Bible dit, et je crois que c'est dans le chapitre précédent, on nous dit on n'est pas de ceux qui démarrent pour par la suite abandonner et se perdre. Donc il est trop malheureux de voir un tas de gens qui se tournent vers Christ, mais de façon sporadique, de façon temporaire. Tant que les choses sont agréables, tant que les choses vont dans l'orientation et la lignée qu'on peut espérer pour nous-mêmes, ben on continue. Mais le jour où les choses deviennent un peu plus ardues, le jour où les choses vont un peu moins bien, plusieurs abandonnent. Et la Bible nous dit que plusieurs ont fait naufrage dans la foi parce qu'ils ont abandonné. Se tourner vers Christ, passer comme Abraham d'un adorateur de la lune à un adorateur du seul Dieu qui existe, du Dieu véritable, Elohim, El Shaddai, l'Éternel, personnifié en Jésus, donc se tourner vers Dieu, va amener un coup, va amener une coupure avec ce qui était passé. Lorsqu'on s'arrête simplement au terme vocation, on parle souvent de l'appel vers le ministère, de l'appel vers le service de Dieu. Et je sais que très régulièrement, dans la communauté chrétienne, on utilise le terme ministère un peu n'importe comment. On l'applique un peu à toutes les sauces. Je vais être clair, tout le monde est appelé à servir. Mais tous, et vous m'avez déjà entendu le dire, mais tous ne sont pas appelés au ministère. La Bible va dire, et c'est Paul qui va le dire dans ses écrits, si quelqu'un est appelé au ministère, qu'il s'attache donc à son ministère. Le terme « si » veut donc dire que certains sont appelés, mais d'autres ne sont pas appelés. Et je tiens vraiment à cette explication, parce qu'effectivement, le ministère, lorsqu'on parle du ministère, notamment dans Éphésiens au chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus est descendu, puis il est monté, et qu'il a fait des dons aux hommes. Mais ces dons, que sont-ils? Il explique dans le chapitre 4 d'Éphésiens au verset 11, et il dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il nous parle ici des gens qui ont été donnés comme ministres, qui ont été donnés dans le service ou dans le ministère en tant que tel, précisément le ministère. Et on nous dit que ces gens-là ont été donnés à qui? Ces gens-là ont été donnés à l'Église. C'est comme si la vie leur appartenait auparavant et leur propre vie par la suite a été prise par Christ et a été donnée à son corps, à son Église. Donc la vie ne leur appartient plus. Leur vie appartient à la fois à Dieu et donc à Christ qui est la tête de l'Église et au corps qui est l'Église, donc l'ensemble de la communauté des croyants. Il y a un point tranchant. Il y avait avant le ministère et puis par la suite à la vocation. Il en est de même pour la vie d'Abraham. Il y avait avant sa vocation et après sa vocation. Et Kaleo Exerkomai nous parle de la démarcation nette, précise et tranchante que représente l'appel au ministère. On nous dit par la foi, Abraham obéit à sa vocation. Je vais juste prendre une gorgée, j'ai la bouche sèche. Abraham obéit à sa vocation par la foi. L'obéissance de la foi est une décision personnelle, délibérée, d'abandonner sa propre volonté au profit de celle de Dieu. Dieu va se présenter devant Abraham et va lui dire d'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans une patrie qu'il n'a pas encore connue, loin de la maison de son père, dans un pays que Dieu va lui montrer en cours de route et qu'il va faire de lui une grande nation. Abraham est confronté avec cette offre de la part de Dieu, cette demande de la part de Dieu, cette vocation de la part de Dieu. Mais Abraham a le choix de répondre favorablement ou de refuser. Abraham aurait pu dire « Non, je suis bien à Charan et je reste à Charan. » Mais Abraham a décidé par la foi d'obéir à sa vocation. Et j'aime le terme « obéir » parce que « obéir » ne se fait pas contre notre volonté. Obéir, au départ, pourrait signifier que je ne suis pas d'accord et je me plie par la suite à la volonté de quelqu'un d'autre, et en l'occurrence ici de Dieu. Mais obéir veut dire nécessairement que je plie ma volonté à celle de quelqu'un d'autre. C'est merveilleux quand j'obéis et que la volonté à laquelle j'obéis, la volonté de Dieu, soit exactement la même que la mienne. Mais régulièrement, à travers les années, on se rend compte que Dieu a des voies insondables et Dieu a parfois des voies qui sont bien différentes des nôtres. Et toi et moi, quel que soit notre service, quelle que soit la vocation, quel que soit l'appel de Dieu, nous sommes confrontés à dire oui ou dire non. Nous sommes confrontés à obéir ou pas. Et Abraham a obéi, la Bible nous dit, en raison de sa foi. Donc l'obéissance de la foi est une décision personnelle. Ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas une manipulation spirituelle de la part du Saint-Esprit qui fait en sorte que hier je ne voulais pas et aujourd'hui je veux. Si je vous parle simplement de ma propre vocation, de mon propre appel, j'ai dit à un moment donné à mes parents, alors que j'étais encore bien jeune, mais que je savais que Dieu m'appelait au ministère, et eux le savaient aussi, parce qu'ils avaient été témoins de l'appel de Dieu dans ma vie, je leur ai dit, regardez, si Dieu veut m'utiliser, il va devoir se battre avec moi. Et effectivement, pendant quelques années, j'ai été en guerre ouverte avec Dieu, alors que je savais qu'il m'appelait, alors que régulièrement au cours d'une année, il utilisait des gens pour me rappeler sa vocation et son appel dans ma vie, et je refusais. Jusqu'au jour où je vais abdiquer devant sa volonté, où je vais plier à sa volonté en lui disant, Seigneur, si tu me veux, me voici, je m'abandonne à toi. Certains vont dire, oui, mais est-ce que ça, c'est pas tordre le bras? Croyez-moi, c'est la plus belle et la plus merveilleuse des décisions que j'ai prises de toute mon existence. Et à l'instant même où j'ai dit oui à Dieu, il y a une paix incommensurable qui a gagné mon cœur. Obéir à Dieu peut être difficile jusqu'au moment où je dis oui. Mais dès le moment où je dis oui, il y a une paix, un calme, une assurance, une conviction qui s'empare de nous. Alors si tu es en train de lutter avec la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, mon ami, la Bible nous dit que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Il a la tête bien plus dure que toi. Je croyais avoir la tête dure, mais il avait la tête beaucoup plus dure que moi. Et quand j'ai abdiqué, quand j'ai capitulé devant lui et que je lui ai dit, Seigneur, je me soumets à ta volonté et j'embrasse ta volonté, je me suis vite rendu compte que c'était une tentative très futile de ma part de s'opposer à la volonté de Dieu et que c'était en fait une erreur grave. J'étais en train de passer à côté de la vocation même de mon existence. J'étais en train de passer à côté de ce pourquoi Dieu m'avait créé à 100%. Alors tu veux un épanouissement de ton existence, tu veux un épanouissement, un sentiment d'épanouissement dans ta vie, fais ce que Dieu t'a créé pour faire. Obéis à la volonté de Dieu, dis oui à la vocation, prends la foi et les ailes que donne la foi et envole-toi dans l'œuvre et dans le service et dans la vocation et dans l'appel que Dieu a pour toi. Donc c'est par la foi que Abraham obéit à sa vocation. Il a décidé délibérément d'obéir. La Bible nous dit et continue en disant, c'est par la foi lors de sa vocation qu'il obéit et qu'il partit. Et qu'il partit. Il y a des gens qui sont prêts à dire oui Seigneur, mais qui ne font pas l'autre pas. Je m'excuse. Ça veut dire que ils ont une décision, oui, de se plier à Dieu. Mais cette décision n'est pas suivie par des actes. La foi se doit d'être active. L'obéissance de la foi va impliquer obligatoirement une démonstration par des actions. Et s'accompagne par un coup, par un inconfort, par un abandon, par une mise à part. On a vu tout à l'heure, Caléo, Exercomai, il y a le fait d'expulser, il y a le fait de couper avec ceux qui étaient nôtres auparavant. Abraham a non seulement obéi, mais son obéissance s'est manifestée par des actions. Et là, ce n'est pas une question de tomber dans le légalisme, de dire je vais montrer à Dieu par mes actions. Non, sachons clairement. La Bible nous le dit clairement, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce de Dieu. Donc, c'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est pas l'argent que tu donnes à des pauvres, la nourriture que tu donnes à des moins bien nantis, c'est pas parce que tu soignes un malade, c'est pas parce que tu t'occupes de tous les moins bien nantis de cette société que tu es sauvé. Tu ne peux pas gagner ton salut par tes actions. Par contre, ton salut va nécessairement se manifester avec des actions. Ta foi va nécessairement se manifester par des actions. Jacques va le dire clairement. On se rappelle de ce verset qui dit, tu dis que tu as la foi, mais que tu n'as pas les œuvres. Moi, laisse-moi te montrer ma foi par mes œuvres. Jacques est très clair en disant, une foi qui n'a pas les œuvres est une foi qui est morte. Une foi qui n'est pas accompagnée par des œuvres est une foi qui est morte. Tu peux avoir un tas de beaux discours, tu peux avoir un tas de belles phrases, tu peux être le meilleur tribun qui soit, mais si ça ne reste que des paroles et non pas accompagnées d'actions, tu es en train d'avoir une fausse foi. Ta foi n'est pas active, ta foi n'est pas véridique. La foi va impliquer des œuvres. La foi va impliquer d'obéir à Dieu, de se plier à Dieu, et cette obéissance va se manifester par des actions. Voilà pourquoi Abraham a accepté, malgré ce que ça allait lui coûter, malgré qu'il abandonne une bonne situation à Charan, malgré qu'il abandonne un territoire qu'il connaît maintenant bien, un territoire dans lequel il s'est établi depuis déjà plusieurs années, où ses troupeaux ont grandi, où il a pris une certaine hégémonie sur la région. Il entend Dieu qui lui dit, voilà, tu pars, va là où je te demande d'aller, même si tu ne sais pas où aller, même si tu ne sais pas où tu vas aller, laisse-moi te guider, laisse-moi te conduire, obéis-moi dans cette vocation, et voici comment tu deviendras le père d'une grande multitude. Abraham a obéi et son obéissance s'est manifestée par des actions. Quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit l'inconfort, quel qu'en soit l'abandon aussi qu'il a fait de certaines choses et quelle que soit la mise à part qu'il a dû vivre aussi en n'étant plus dans le contexte, dans l'environnement qui lui était cher et propre jusqu'à ce moment-là. On nous dit par la suite, c'est par la foi qu'il partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'il partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. L'obéissance de la foi n'est pas obligatoirement récompensée de façon instantanée. Abraham ne reçoit pas son héritage du jour au lendemain. Abraham ne reçoit pas son héritage au premier moment. Au premier pas, Abraham va le recevoir bien longtemps plus tard, et ce bien longtemps plus tard est en fait lorsqu'à l'âge de 100 ans, miraculeusement, lui et son épouse Sarah vont avoir un enfant, Isaac, qui va être le fils de la promesse et l'accomplissement de la promesse, son héritage, l'héritage qu'il laisse à l'humanité. Ce début, ce démarrage de la famille d'Abraham va se faire lorsqu'il a 100 ans. Père élevé qu'il s'appelait alors qu'il n'avait pas d'enfant, puis père d'une multitude alors qu'il n'a toujours pas d'enfant. Et cela va arriver simplement avec son obéissance. Donc par la foi, il partit vers un lieu qu'il devait recevoir. Certaines personnes veulent être rémunérées par Dieu avant d'avoir fait le premier pas. Certaines personnes veulent travailler pour Dieu, mais avoir une espèce de bonus à la signature du contrat en disant, ben maintenant tu me bénis, puis après ça, je vais continuer à avancer. Voire même, ils se disent, ben si tu ne me bénis pas, on ne le dit pas avec ces mots-là, mais avec l'attitude qu'on a, avec les décisions qu'on prend. On dit, si tu ne me bénis pas, je n'avance pas. Si je ne reçois pas mon cadeau, je n'avance pas. J'avancerai simplement lorsque j'aurai eu le salaire que je veux avoir. Salaire anticipatoire ou en anticipation, un salaire qui vient être donné avant même qu'on ait fait un pas, avant même qu'on ait été obéissant, avant même qu'on ait quitté Charan, on lui dit « Donne-nous le salaire et après ça, on t'accompagnera. » Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des employés. Et la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il faut donc être à l'œuvre pour mériter notre salaire. L'héritage vient parfois longtemps après le début de l'ouvrage et parfois l'héritage ne vient que là-haut. Certaines bénédictions, et on le voit et on va le voir très clairement dans les derniers exemples qu'on va avoir dans une vingtaine de semaines sur le livre, sur le chapitre 11 d'Hébreux, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont refusé leur héritage ici-bas sur terre pour en vue de l'héritage beaucoup plus grand, merveilleux, qui les attendait dans le ciel. Donc, par la foi, il partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Par la foi, il partit aussi sans savoir où aller. L'obéissance de la foi ne suit pas toujours un plan d'action préalablement révélé. Parfois, Dieu nous guide graduellement. Et c'était le cas d'Abraham là. Et je vous dirais que dans la plupart des cas, Dieu ne nous dit pas clairement le chemin à suivre. Il éclaire notre sentier, il éclaire notre chemin pour qu'on puisse voir pas à pas où nous mettons les pieds. C'est ça, marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est de savoir qui nous a appelés, même si on ne connaît pas le chemin par lequel il va nous faire marcher. Il y a des gens qui veulent s'impliquer avec Dieu, oui, en sachant qu'ils ont été salariés avant même d'avoir fait un pas. Et d'autres vont dire, mais dis-moi tout ce que j'ai à faire. Dis-moi tous les chemins qu'on va parcourir. Dis-moi tous les adversaires qu'on va rencontrer. Dis-moi toutes les aires de repos qu'on va connaître. Dis-moi tous les champs de bataille qu'on va traverser. Et après ça, j'en viendrai à une conclusion, à savoir si oui ou non, je reçois ou pas ton appel et si j'y réponds favorablement. La vie chrétienne est une aventure merveilleuse, est une aventure sûre et certaine, en autant qu'on est en train de suivre les paroles qui nous guident de la part de notre Dieu, en autant qu'on soit en train de suivre le chemin qu'il trace pour nous, en autant qu'on soit en train d'accomplir sa parfaite volonté. Abraham était en sécurité tant et aussi longtemps qu'il suivait les directives de Dieu. Abraham n'avait pas à craindre les ennemis, n'avait pas à craindre les adversaires tant et aussi longtemps qu'il suivait la volonté de Dieu. Qu'était cette vocation qu'Abraham ne voulait pas abandonner? Quelle était cette vocation? Une vocation, un appel immérité. Abraham n'a pas été appelé parce qu'il méritait d'être appelé. Abraham n'a pas été appelé parce qu'il avait déjà accompli des choses et Dieu l'avait testé, Dieu l'avait éprouvé. Alors il avait gagné ses jalons et puis ses décorations. Et maintenant, à titre honorifique, Dieu lui donnait quelque chose à faire. Non, c'était une vocation et aucun d'entre nous n'est digne de la vocation que Dieu nous donne. Je dis souvent dans les écoles pastorales, lorsque je suis amené à apporter des enseignements auprès de gens qui veulent servir, ou même des pasteurs, ça m'est arrivé à quelques occasions, je dis souvent que la vocation que nous avons reste une grâce de Dieu. Nous ne sommes pas pasteurs parce que nous le méritons, nous sommes pasteurs par l'appel et par la grâce de Dieu, point à la ligne. Et effectivement, c'est un honneur et c'est une grâce de servir Dieu, en pensant simplement que le Créateur de l'univers nous accorde de prendre une petite partie de son royaume et la place entre nos mains, nous donne entre nos mains, sous notre charge et sous nos soins, nous donne des brebis pour lesquelles lui a donné sa vie et est mort et ressuscité pour eux. Donc les choses les plus précieuses qu'il avait à ses yeux, il les confie à nos bons traitements. C'est un honneur que Dieu nous fait. Donc, quand on sert Dieu, on doit servir Dieu avec cette humilité et avec cette pensée qu'effectivement, c'est un appel immérité. Abraham a été appelé par Dieu, le Créateur de l'univers, qui avait tout fait jusqu'au jour d'Abraham, sans le concours d'Abraham, et qui pouvait tout faire le restant de l'histoire de l'humanité, sans le concours d'Abraham. Mais il plut à Dieu de donner à Abraham un rôle à jouer. Une vocation est un appel avouer sa vie au profit des autres, un peu comme un médecin, une infirmière, un enseignant, un pompier, un policier. C'est des gens qui donnent leur vie pour leur prochain. Un pasteur, un ouvrier dans le corps de Christ devrait être effectivement quelqu'un qui donne sa vie pour les autres. Si tu vas dans le ministère et si tu vas dans le service pour en tirer un profit, pour ta propre gloire et ta propre vanité, tu entres dans le service pour une très mauvaise raison. Abraham a été appelé à être une source à travers laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Lorsque j'obéis à Dieu, je m'acquiers des bénédictions et une rémunération et un salaire pour moi, un héritage qui me sera accordé plus tard, mais de surcroît à cela, je deviens aussi une bénédiction pour les autres. Et voilà pourquoi on revient au passage dans Éphésiens au chapitre 4, quand la Bible nous dit que Dieu a donné aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Dieu prend la vie du ministre et la donne en vue de parfaire l'éducation, la formation, la préparation des membres du corps de Christ. C'est donc un don de soi envers le peuple de Dieu. Si tu ne veux pas être, si tu ne veux pas avoir une vie consacrée aux autres, si tu ne veux pas avoir une vie vouée à autrui, eh bien, je te conseille de ne pas embarquer dans le service de Dieu. Par contre, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas appelés à faire autre chose que de donner notre vie pour nos amis, de donner notre vie pour nos ennemis, de donner notre vie pour la cause de Christ et pour l'avancement de son royaume et pour les autres brebis qui sont autour de nous. Alors je prie, mon ami, que tu ne sois pas désobéissant, que tu ne sois pas rebelle, que tu ne sois pas la tête dure par rapport à Dieu, que tu ne fasses pas la sourde oreille à sa voix, mais que tu puisses te tourner vers lui en lui disant: Seigneur, tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, pour aussi longtemps que tu veux. Ta volonté, strictement ta volonté, et non pas la mienne. Alors Seigneur, c'est ainsi que nous prions. Non pas notre volonté, mais ta volonté, uniquement ta volonté, ta pleine et parfaite volonté. Nous t'avons prié dans le précieux nom qui est le tien, le nom de notre Sauveur, de notre Seigneur, le nom qui a été donné seul par lequel nous puissions être sauvés, le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous avons prié dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va se retrouver demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale, toujours dans ce chapitre 11 d'Hébreux avec la grande thématique C'est par la foi. Et demain, on voit une deuxième facette de la foi d'Abraham et comment elle s'est manifestée dans sa vie. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.